Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue dans Next Episode, votre rendez-vous consacré aux séries télé, un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. Ici, on débriefera souvent, on analysera éventuellement, on s'écharpera évidemment et de préférence violemment, mais tout ceci dans le respect du produit avec beaucoup d'amour. Aujourd'hui, la série aux 2 Golden Globes et 2 Emmy Awards, dont la deuxième saison débarque le 2 mars sur OCS City, Atlanta, l'œuvre de Donald Glover. Pour en parler, deux fans, Dern et Alfred, Mélanie Wanga, bonjour.
Bonjour.
Et Renan Crowe, bonjour.
Salut.
Alors, avant qu'il ne tous deux leur flow, je propose l'info. Ouvrez les guillemets. Ce que vous voyez n'est pas réel, l'amour transforme tout. Fermez les guillemets. C'est la catchline annonçant la nouvelle série britannique Netflix, The Innocents, le tout sur fond de musique mystère et d'images cheloues. Je vous fais profiter de l'ambiance sonore.
Ah ouais,
on a des images, on a une ambiance sonore, on la met. June et son petit ami Harry s'enfuient pour changer de vie et recommencer à zéro. Enfin, c'est ce qu'ils croient. Trois petits points. Des ados très beaux, hein, de toute évidence, de la romance, du surnaturel. Et en cadeau bonus, Guy Pearce. Sur le papier, ça vous tente? J'ai rien d'autre à vous annoncer, en fait, hein, sur l'intrigue, sur le... J'aime bien quand c'est pitché comme ça, je crois que c'est quand même...
Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont croiser Bella et
surnaturel,
compagnie pour Twilight?
Je sais pas, peut-être des vampires, peut-être des monstres, on sait pas.
Oh là là, non.
Je suis mauvaise langue, mais ça sent quand même un peu la daube que personne va regarder sur Netflix. Vous savez, il y a ces trucs sur Netflix où tu les fonds de tiroir et t'as vraiment l'impression que personne n'a regardé.
Et dans un moment de gueule de bois, tu les lances et au bout du cinquième épisode, tu dis « Ah mais je regarde vraiment cette merde en fait !»
Oui, sauf que là, ils sont quand même en train d'annoncer un truc pour lequel il n'y a pas de date de sortie. Ils ont déjà l'air de commencer une espèce d'amorcer une série en grande pompe. Attention, nouvelle série britannique, on vous donne un peu de teaser, mais c'est
parce
quand même une mise un peu dessus, non? C'est très étrange.
The End of the Fucking World a été un beau carton critique sur Netflix.
Mais quelle est leur série anglaise qui marche si bien? Je me souviens plus. Le truc avec une reine.
The Crown. Allez, merci. C'est mon point The Crown. Big up à la reine,
mais
je t'embrasse.
Je suis navrée, il ne peut pas s'empêcher.
Bah, c'est mon côté vieille dame.
The Crown. D'accord. Donc, non, pour l'instant, The Innocents.
Va falloir vous en donner plus.
Moi, je vous laisse vous jeter à l'eau et puis j'attends vos retours.
Moi, je regarderai par principe. Allez, direction Atlanta. I want to manage you. Manage. Yeah. Boy, you think you slick. You come in here acting like you saving me, well, really, I'm saving you again. Music business is gross. You think he's dead, man? Yo, you know y'all made the news, right? Damn. Man, I love this rap shit, boy. You know, when they told me a rapper was in here, I had to come snap a pic. It's good to see a rapper that would just blow a nigga brains out on the street. I wanted to tell y'all, you're shooting people, that isn't cool. Who are you and why are you speaking to me and my children? Au départ, et alors de manière très, 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 très condensée, l'histoire de deux cousins qui veulent se faire une place dans le monde du rap, c'est vraiment la version extrêmement condensée, parce que c'est vraiment loin d'être le seul sujet. Si je vous demande ce qui vous a séduit, vous, dans cette série, Mélanie.
Qu'est-ce qui m'a séduit dans cette série? En fait, moi, j'avais jamais vu une série comme ça, déjà. Et j'adore être surprise par les séries, en fait. Et je trouve que Atlanta, c'est un super jeu d'équilibriste entre un côté hyper réaliste, avec la drogue, la pauvreté, les gangs, et un côté complètement décalé, absurde, surréaliste, que ce soit dans la réalisation, dans les dialogues, dans la manière que les personnages ont parlé de trucs complètement barrés, qui après rebondissent et arrivent vraiment dans la série. Je trouve qu'il y a vraiment un équilibre de ces deux facteurs-là qui fait que, enfin, pour moi, la série est un peu révolutionnaire à ce niveau-là, quoi.
Renan.
Ouais, c'est vraiment grandiose. Il y a un truc, on l'avait vu venir sans le voir venir. C'est-à-dire, Donald Glover, on le connaît, Childish Gambino, enfin, c'est pas n'importe qui. Donc, on se disait, ok, ça va être une série un peu hype, un peu carré, quoi, un peu la série d'auteur aujourd'hui. Et en fait, il est arrivé, il a trusté tout le monde parce qu'il a fait, en fait, ce qui ne ressemble à rien. Je suis complètement d'accord. C'est-à-dire que c'est à la fois. Enfin, moi, j'ai vraiment la seule chose à laquelle ça me fait penser, et vraiment, on va être très très loin, ça me fait penser à du Samuel Beckett. C'est-à-dire que j'ai l'impression de voir ce que le théâtre de Beckett, ce que l'écriture de Beckett, c'est-à-dire à la fois un côté très terre à terre, très physique, tout ce que tu dis sur le, évidemment, un peu les clichés d'ailleurs du film, de la série sur le rave, de la série sur les villes noires américaines, et en même temps, tout ça décollé par une espèce d'écriture poétique et d'écriture absurde qui vraiment, je n'avais jamais vu ça, et surtout, je suis même pas sûr de comprendre exactement tout ce que la série me raconte. Et moi, ça me fascine. C'est d'une beauté aussi, enfin, en termes de mise en scène, c'est sublime. Le premier épisode avec cette espèce d'effet flash retour, c'est plus beau pour moi que toute la saison de Twin Peaks 3. Hein. Mais ça, c'est bon.
C'est pas le point The Crown, c'est le point Twin Peaks. Mais voilà. Il aime se faire des ennemis. Mais c'est quand même.
Mais d'ailleurs, il l'a défini comme ça, la série Donald Glover, Twin Peaks avec des rappeurs. Mais d'ailleurs, le truc sur.
C'est génial. Ok, c'est génial. Bon, voilà. Je mets mon billet, c'est bon. Twin Peaks avec des rappeurs.
Le truc que tu disais sur Beckett, en fait, j'ai, en re-regardant la série, j'ai vraiment pensé à ça aussi quand ils sont assis sur le canapé au milieu de leur espèce de jardin complètement pourri, quoi, et qui passent leur temps à attendre et à philosopher sur la vie. Enfin, il y a vraiment ce côté-là.
C'est extrêmement bien dialogué. Hein,
ouais, mais il y a même pas très pointu. La difficulté qu'on va avoir, c'est que c'est difficile de raconter la série parce qu'en fait, bon, effectivement, c'est cette trajectoire.
C'est condensé vraiment.
Il était très bien.
Si, qu'est-ce que
c'est presque un. Alors, ce serait un rise and fall, c'est-à-dire on va suivre la montée en puissance de ce duo, mais en même temps je pense qu'il va pas du tout faire ça ensuite. Enfin, il y a ça, c'est tellement de pistes, de trucs. Moi, ce que je préfère presque, c'est les scènes les plus quotidiennes, c'est presque les scènes les moins narratives, celles qui font avancer l'histoire. C'est presque ces moments de réveil au matin où on sait pas très bien où il est, ce qu'il fait. Et puis lui, quoi, c'est vraiment un personnage. Enfin, déjà, il est joué par Donald Glover, qui est moi un de mes acteurs préférés. Je trouve qu'il a un truc physiquement qui moi m'impressionne. Et puis surtout, il y a un truc. Ouais, c'est magique, presque un peu comme série. C'est-à-dire que je ne sais même pas ce que je regarde quand je la regarde.
Ouais, et puis je voulais juste rajouter un truc aussi sur la série que j'aime beaucoup. Alors en anglais on appelle ça les callbacks, en français je pense qu'on pourrait appeler ça les rappels. Par exemple, on va parler d'un élément en particulier, que ce soit dans un dialogue où ça va apparaître, et puis après on va le retrouver tout au long d'épisode, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et par exemple, dans la saison 1, il y a le moment avec la voiture invisible. Et donc ils en parlent au début, ils en parlent au milieu de l'épisode, et à la fin on voit la voiture invisible, et ils font ça régulièrement en fait dans plein d'épisodes, et je trouve que c'est vraiment très bien.
Ouais, on a presque l'impression que les personnages voient des choses que nous on voit pas, et que même la série raconte un monde, et presque il y a presque un truc un peu fantastique où on y aurait une autre. Mais ça, c'est aussi très politique en fait dans sa manière de.
Oui, parce que les rappels à la réalité sont d'autant plus
forts. Et puis surtout, c'est une manière de politiquement de réinventer l'espace américain et de dire ok, moi je pourrais vous faire une énième série Spike Lee pour vous montrer à quel point c'est la merde, on est coincé, on est enfermé, tout ça. Spike Lee l'a fait ça très bien dans les années 80-90. Sauf que je trouve que ce qu'apporte Donald Glover, c'est tout d'un coup une espèce d'élan poétique, d'élan littéraire en fait. Et ça, c'est hyper important.
Mais ça raconte quand même beaucoup de choses sur les États-Unis aujourd'hui.
Oui.
Non, mais de manière, sûrement presque moins coup de poing, mais tout aussi maligne, quoi.
Oui.
Et moi, je trouve que c'est mieux amené finalement que ce que fait. En tout cas, ce que peut faire Spike Lee actuellement, je trouve que c'est beaucoup moins. Oulala, regardez la condition noire américaine. Non, c'est juste des gens qui vivent des choses, et ce côté, je pense, surréaliste aide à les voir comme des personnes et pas comme des espèces de figurines. Gangsters.
Comme des tiroirs à sujet pour Bernard de la Villardière, quoi. Il y a un truc. Et ce qui est quand même assez, en ce moment, il y a quand même un truc qui se passe qui est quand même assez beau. C'est quand même Black Panther. Il passe un truc dans l'industrie américaine qui est quand même assez. Enfin, moi, qui m'impressionne. C'est-à-dire que le film de Ryan Coogler est génial. Il est génial, un, parce que c'est aussi un film politique, parce que c'est un casting entièrement noir aux États-Unis qui renverse le système et ainsi de suite, mais c'est aussi parce que c'est un grand film de mise en scène, c'est un grand film qui, comme Donald Glover, a intégré tous ces codes noirs américains, et même noirs tout court, pour en faire de la fiction, pour raconter des histoires, et qu'on n'est pas du tout... On est sorti, on parlait de Spike Lee, du cinéma à thèse, pour montrer en fait qu'on pouvait faire avec ces personnages des grands récits universels. Et Atlanta, pour moi, ça parle de la vie en général, c'est pour ça qu'on pense à Beckett, c'est-à-dire que ces scènes sur le canapé, ça pourrait être nous trois en train de discuter de la vie dont on sait pas quoi foutre.
Mais je crois que ça a été inspiré par...
Par nous, effectivement.
pas m'enflammer, mais il me semble qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. La saison 2, vous en attendez quoi ?
La saison 2, qu'est-ce que j'en attends ? J'en attends beaucoup parce que... Alors, tu parlais de Black Panther, j'ai regardé le tapis rouge de Black Panther, parce que oui, je fais partie de ces gens-là. Et donc, c'était magnifique. Et donc, Donald Glover était là, à l'avant-première, et du coup, on lui a posé des questions sur la saison 2 d'Atlanta, et le mec lui dit, ah, moi, je suis super prêt pour la saison 2, et il lui dit, non, tu n'es pas prêt. Donc, je pense qu'on va assister à encore plus d'audace narrative, je pense qu'il va amener des choses. Je pense aussi que, politiquement, il y a eu du changement depuis la saison 1 qui se passait sous l'ère Obama, maintenant on est sous l'ère Trump, donc il y aura
ça fait des nouvelles choses à raconter,
des choses à dire à ce niveau-là. Et puis du coup, ouais, je pense que ça va être à la fois politiquement vachement potent, quoi. Mais il y aura aussi, à mon avis, beaucoup d'inventivité au niveau de la réalisation.
Ouais, je pense que Donald Glover, son génie, et c'est pour ça que sa figure, ce qu'il incarne dans la pop culture, c'est qu'il est jamais exactement là où on l'attend. C'est-à-dire, il est dans Community, mais c'est Childish Gambino, ce qui est pas du tout les mêmes univers d'ailleurs. Et puis tout d'un coup, il fait Atlanta, qui devient une série auteur, donc on dit ok, c'est le grand mec, c'est l'auteur noir américain qu'on attend. Puis après, il part faire Han Solo, qui est le nouveau film Disney Star Wars. On sait pas pourquoi il est là. J'ai l'impression que le type joue avec son image, joue avec la pop culture. Et cette saison 2, effectivement, il l'a dit plusieurs fois, vous ne savez pas ce que vous allez voir. Et je pense qu'il va changer.
Et il fait tout pour. Hein.
Il fait tout
pour.
Il
faut quand même expliquer que c'est-à-dire personne n'a accès à quoi que ce soit exactement de la série avant. En fait. Mais tout le monde logé à la même enseigne.
Je pense qu'il va vraiment retravailler la forme, il va raconter ça différemment. Moi, je l'espère plus intime encore et plus autobiographique. Il est dur ce mot. Et plus autobiographique que Atlanta. C'est-à-dire que vraiment, il raconte aussi ce que c'est. Moi, ce qui me fascine chez lui, c'est l'avatar, c'est la double identité, puisqu'il est à la fois Donald Glover, puis Childish Gambino, et puis là, il est donc Earl dans Atlanta. Et je me dis, est-ce qu'à un moment, il va réussir, et il y a Paperboy aussi dans la série, est-ce qu'il va réussir à raconter ce que c'est aussi la célébrité par un biais d'autre chose? J'aimerais bien que cette saison 2 soit encore plus politique évidemment, mais presque encore plus méta, encore plus inventive sur les choses trappes de la série et les différentes lectures qu'on peut en avoir.
Quelques indices peut-être ou pas, dans cette bande-annonce de la saison 2. This is Paperboy, and you're tuned into the Fresh Mix rap playlist. Long live Fresh. Let's do it again, and just like this time, like you're at a party and everything's crazy.
Hey man, you gotta get up. What up? You staying?
Damn, is you the landlord or something?
Robin season. Everybody gotta eat.
Hey, yo, man, you just take a picture of me.
Gap in the clouds and the sun comes out.
Paperboy in the house.
You're gonna get us robbed.
La saison 2 d'Atlanta qui arrive donc le 2 mars, est-ce que vous ne pensez pas qu'avec justement, tu en parlais tout à l'heure Mélanie, l'arrivée d'un nouveau président, je vais me faire l'avocat du diable, ça va être horrible, mais ça risque pas peut-être d'affadir son propos à lui, parce que quand on se retrouve face à une telle démesure, est-ce que du coup toutes les tentatives de narration, d'explication, de...
Il y a toute une théorie sur l'art créé en temps politique agité, et notamment l'art afro-américain. Par exemple, le hip-hop, c'est né d'une situation qui était très problématique notamment à Atlanta d'ailleurs. Et moi, je pense que justement, plus c'est dur et plus on a des choses à dire. Et je pense que Donald Glover, ne serait-ce que déjà avec la saison 1, nous a montré qu'il était capable de dire des choses très très précises, très fines sur la condition afro-américaine. Je pense que là, et même dans la saison 1, il montrait déjà des scènes de violence policière, par exemple. Et là où maintenant c'est vraiment décomplexé et tout, je pense qu'il va y aller franco et qu'il va dire des choses, quoi.
Aucun doute sur le fait qu'il va pas retenir les coups, mais du coup, enfin, c'est toujours le même problème.
Est-ce que ça
plus le méchant est méchant?
Ouais.
Est-ce que du coup.
Non, parce que je pense qu'il va trouver un moyen de le raconter par le quotidien, ce qui était déjà très fort dans Atlanta, c'est-à-dire de pas faire. Encore une fois, Atlanta, on parle tout à l'heure de la dimension politique de la série, mais pourquoi toutes ces œuvres afro-américaines, elles sont aussi politiques comme Get Out par exemple, parce qu'elle ne passe pas frontalement par la politique. C'est pas des films tract.
Non.
Ce sont des films qui racontent par la fiction et par le pouvoir de la fiction un état des lieux et un état des choses. Et vraiment, c'est ce qui fait très bien dans Atlanta. On l'a pas dit, mais c'est aussi un portrait d'une ville, c'est aussi un portrait des gens qui y habitent. Donc j'ai l'impression qu'en saison 2, soit il pousse le curseur encore plus loin et que ça va passer par les dialogues et ça va passer aussi par l'humour, parce qu'il est aussi très drôle. Et je pense qu'il y a une forme d'ironie et presque de résilience, à mon avis, face à Trump. Moi, j'attends ça de lui. C'est-à-dire qu'il réussisse à me faire rire de ça. Et ce qui est, à mon avis, pas pas si évident à mon avis aujourd'hui, mais aussi peut-être résonner avec aussi la montée de ces films comme Get Out, comme Moonlight, de cette Amérique qui prend conscience qu'il y a une autre Amérique qui existe, et peut-être que pour lui ça va nous amener à réfléchir sur ce qu'il incarne. Il l'a dit d'ailleurs récemment qu'il allait arrêter son double Childish Gambino, et qu'il est en train, il est passé de rap star à pop star, et que là j'ai l'impression que lui se demande vraiment quel est son rôle à jouer aujourd'hui. J'espère que la saison 2 parle de ça.
Ouais, après en plus la communauté afro-américaine a toujours réussi à tourner le traumatisme soit en art, soit comme tu disais en quelque chose de drôle quoi. Il suffit de voir des fois sur le Black Twitter, ils prennent des hashtags et ils créent des trucs, des challenges complètement débiles, hilarants sur des ce qui part de trucs traumatiques quoi, genre l'esclavage. Et non mais vraiment, et du coup je pense que c'est un des talents en tout cas de la personne afro-américaine en tout cas, et je pense Donald Glover quoi.
Là, puis alors, la vraie force aussi de la série, c'est que effectivement c'est politique, mais c'est pas une série politique. Ça parle de rap, mais c'est pas une série sur le rap non plus. C'est-à-dire qu'il arrive à englober tous les sujets, les univers. Ouais, exactement.
C'est aussi. Et du coup, c'est
de savoir. Non, mais, oui, mais alors du coup, quelles vont être les pistes les plus explorées. Du coup, c'est quand même.
J'aimerais bien qu'il parle plus de femmes.
Ouais.
C'est un peu le problème. Il y a eu un épisode.
Bonjour,
c'est moi. Je suis là. Il y a eu un épisode sur le personnage de Vanessa qui est sa baby mama. Donc voilà. Saison 1, mais effectivement, c'est le seul personnage féminin qui ait une identité, quoi, dans la série. Donc, c'est un peu problématique, quoi, d'avoir plein de personnages masculins bien développés, d'avoir un seul personnage schtroumpfette au milieu, quoi. Donc, j'espère qu'il va arriver à développer ça et à donner un autre rôle aussi à Vanessa, qui est quand même en saison 1 était très là pour dire bon, ça suffit, les garçons, maintenant on arrête de s'amuser et on va travailler, quoi.
C'est très, ouais, très virilo-centré, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment la bande de potes, la testostérone, les combats d'égo entre eux. J'ai l'impression quand même que. Il y a quand même un peu un poétique lover quand même derrière Childish Gambino.
Toujours. Écouter les albums.
C'est ça. Donc j'aimerais bien qu'il aille là-dedans et dans ses clips notamment, il y a un clip que j'adore qui s'appelle Sober où en fait il drague une fille en étant complètement bourré. Et ce qui est très beau, c'est la manière dont il a un sens du burlesque aussi. Il a un sens du ridicule. Et je trouve que dans la comédie romantique, il serait vraiment génial là-dedans. J'aimerais bien que cette saison 2 pousse. Il y a un peu de ça un peu dans la saison 1. Il y a quelques scènes comme ça de.
Oui, il l'amène au resto, mais il veut pas qu'elle dépasse $60.
C'est
parce
génial.
Que...
ça c'est vraiment génial. J'aimerais bien qu'il pousse un peu là-dessus, mais. Comme tu dis, c'est un peu l'auberge espagnole, c'est-à-dire que chacun y amène ce qu'il a envie d'y voir, et c'est ça le génie aussi de Donald Glover, c'est d'avoir fait une série sur tout, en fait, et sur la vie en général.
À l'inverse de Seinfeld, qui faisait une série sur rien.
Sur rien, exactement.
Voilà. Sur lui, en tout cas.
Pas sur la, oui.
Ce qui est déjà pas mal comme sujet. C'est presque devenu je déteste cette expression, mais je vais la dire quand même, c'est presque devenu un cas d'école, Atlanta. C'est-à-dire que ça devient presque la matrice des séries telles qu'il faut les faire aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire que la série a généré tout un tas de séries avatars derrière. Mmh. On se dit, on va faire un peu la même chose, mais pas vraiment. Qu'est-ce que pour vous, cette série a vraiment inventé? Et est-ce qu'elle mérite tous les avatars qu'elle subit?
Alors, elle l'a pas inventé, mais en même temps, elle l'a mis très haut. C'est le format 30 minutes, qui n'est pas le format sitcom classique avec tournage en public et rire enregistré, mais qui avait déjà un peu ça dans Looking, notamment de Andrew Haigh, qui était aussi une très très belle série. C'est-à-dire cette espèce de format de 30 minutes où on est simplement, on ouvre une fenêtre, on regarde pendant 30 minutes la vie des gens, puis elle se referme, puis elle se rouvre, et finalement, c'est presque une sorte de succession d'instantanés, et ça c'est très beau. Il y a ça aussi dans Insecure, un peu, qui est un peu le pendant féminin, féministe d'Atlanta. D'ailleurs, on aimerait bien un crossover entre les deux, ce serait un peu sympa qu'ils se rencontrent. Moi, je suis très Marvel.
Ça prendrait quelques petites heures d'avion à Atlanta, Los Angeles.
Oui, mais un shared universe à l'aéroport.
C'est comment, il croit qu'en fait tous les showrunners l'écoutent.
Si tu m'écoutes, Donald. Non, mais je trouve que ces deux personnages, déjà Issa Rae et Donald Glover, sont deux incarnations très intéressantes aujourd'hui de l'Amérique. Et je pense qu'ils auraient des choses à se dire parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes points de vue, et notamment le même point de vue sur les hommes et sur les relations.
Excusez-moi, vous êtes critique ciné ou vous êtes matchmaker, monsieur Renan?
Je suis l'agence de rencontre, de dating de séries télévisées.
Mélanie, ce que cette série a apporté vraiment qui fait qu'elle se fait copier partout,
que tout le monde se dit ça serait bien si on faisait pareil
sur une ville avec ses problèmes, mais en même temps les gens qui y vivent. Mais Marseille, oh non, je déconne, c'est bon. Point Marseille.
Le point Marseille. Moi je pense que il y a eu une époque, j'ai l'impression, je sais pas, c'était 2011 Girls, où vraiment les gens faisaient un peu ces séries qui étaient aussi sur un format court avec voilà. Et je pense qu'Atlanta, on va dire, c'est un peu la phase 2 de ce mouvement là sauf que déjà diversité, chose que malheureusement dans Girls était un peu manquant. et surtout le propos pour moi d'Atlanta est plus enfin, en fait, je sais pas, c'est un peu magique cette série. Je sais pas comment il fait, mais j'ai l'impression d'en apprendre plus et j'ai l'impression qu'il en dit plus, par exemple, qu'une série comme Girls, qui dit déjà beaucoup de choses politiquement sur les femmes et sur qu'est-ce que c'était de grandir à New York et de pas avoir d'argent. Et là, j'ai l'impression, quand je regarde Atlanta, de vraiment être, en immersion avec eux, quoi. Et de comprendre des choses d'un monde où pourtant j'ai jamais mis les pieds. Alors je sais pas vraiment comment il fait, mais il y arrive en tout cas.
Ouais, moi j'ai l'impression peut-être que parce qu'il y a une dimension vraiment artistique dans la mise en scène, dans l'écriture, c'est-à-dire que c'est jamais fonctionnel. Et c'est peut-être ça qui nous surprend, c'est-à-dire que les dialogues sont jamais vont vraiment à un point très précis. On n'a pas cette sensation d'avancer.
Ouais.
Et là où toutes les autres séries,
on s'attend jamais aux dialogues qui arrivent en fait.
Et donc on est un peu spectateur en permanence, mais un vrai spectateur, pas un spectateur guidé sur un petit chemin qui nous emmènerait à la fin de l'épisode, mais un spectateur qui observe ces gens. Il y a un côté observateur, un côté un peu presque un peu voyeuriste parfois sur ses relations avec les personnages. À mon avis, c'est ce côté vraiment artiste. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un produit qui est tellement pensé, travaillé. Je pense qu'il doit être très relou dans la vie de Donald Glover. C'est-à-dire que je pense qu'il doit tellement maîtriser son
compliqué,
image.
Compliqué, on va dire, pas relou, compliqué, on va dire.
Je pense qu'il a une maîtrise totale de son écriture, de son image, de son travail, qui fait qu'à mon avis, la série lui ressemble totalement et c'est peut-être ça qui nous plaît.
C'est vrai que c'est pas une série où on se dit, ouais, c'est bon, dans trois épisodes, et il va coucher avec machin et tout. Pas du tout, quoi.
C'est pas du tout prévisible.
On sait pas de quoi ça va parler, quoi.
Oui, et on l'a assez peu dit. Rappelons aussi que c'est drôle, hein. On a parlé que de l'aspect quand même un peu politique.
C'est drôle, ouais.
Le personnage de Darius, le bras droit de Paperboy, il est incroyable, quoi. J'ai redécouvert des répliques qui sortent, mais
les répliques sont assez dingues.
Il y a une sagacité, une manière d'écrire très rapide, mais en même temps, c'est presque trop bien écrit pour le regarder en une seule fois. C'est presque
Le regarder plusieurs fois,
tellement ça va vite. Et alors, je ne sais même pas s'il existe une VF, mais s'il existe une VF, ça n'a aucun...
Ah non, mais les VF où on dit black pour black, non, quoi. Non. En plus, Netflix est très coupable.
Elle passe un message, elle aussi, à toutes les gens de séries télévisées. Pas ça.
On ne le fait pas. Mais peut-être en VO, c'est suffisant, on se dit, c'est bien. VO sous-titré,
ça marche. Ils ont mis le mec qui faisait Eddie Murphy, quoi. Eh mec, ça n'a aucun sens. Horrible.
L'âne de Shrek.
Que tu imites très très mal, d'ailleurs. Je suis quand même...
Je n'ai aucun talent, sans déconner.
Non, beaucoup de talent, mais le... Ouais, déçu, choqué. Là, je... On arrête ça tout de suite. Si je vous demande une recommandation.
J'en ai plein.
D'une série qui soit un rapport, soit vous faites comme Netflix, c'est-à-dire vous avez aimé, vous aimerez.
Une série qui n'est plus à l'antenne et qui n'est même pas disponible en France, peut-être sur BET, mais je ne suis pas sûr, de Carmichael Show.
Ah oui.
Qui est une série absolument géniale, produite par c'est 18 ans. Ça a été diffusé en France, j'ai l'impression que ça a été diffusé sur cette chaîne BET.
Ouais, c'est possible.
Mais bon, voilà, c'est une série géniale parce que c'était une sitcom, là, pour le coup, format 30 minutes, sitcom, un canapé, une maison. Et c'est vraiment une série, là, pour le coup, frontalement politique. Il s'agit de faire une sitcom politique. C'est notamment produit par Nicholas Stoller. Et c'est Jared Carmichael, qui est un comique américain. Et en fait, en gros, c'est sa famille. Et à chaque fois, c'est un problème politique, ils s'assoient et ils discutent et ils parlent et c'est des situations. Et notamment, le premier épisode, c'est sur le vote, notamment, pour est-ce que je vais voter ou pas. C'est extrêmement drôle, extrêmement brillant et surtout, ça rappelle un truc, c'est que la série télévisée, c'est aussi l'art du dialogue et l'art de l'échange et qu'il y a un truc qu'on retrouve aussi, à mon avis, dans Atlanta, qui est vraiment cette capacité à faire passer des idées par la fiction. C'est vraiment génial. Je ne sais pas si un jour quelqu'un va rediffuser ça. La série s'est arrêtée là, il y a quelques temps, The Carmichael Show.
Moi, je voulais vous parler de Issaré et d'Insecure, mais aussi d'un show qui s'appelle Gros Niche. Donc le nom est un peu... C'est une série dérivée d'une série qui s'appelle Blackish, qui était une sitcom, qui est toujours d'ailleurs diffusée, une sitcom sur une famille afro-américaine aisée. Donc c'est drôle en fait. C'est un peu, on va dire, un avatar du Prince de Bel-Air et du Cosby Show. Sans Bill Cosby. Non, voilà. Si on met à part tout ce qu'il y a eu avec Bill Cosby, le Cosby Show, c'était quand même quelque chose dans les années 90, quoi. Ça représentait quelque chose, quoi. Et donc, Gronich, en fait, c'est l'aîné de la famille qui part à l'université. Et donc, c'est vraiment un spin-off, sur ses aventures à l'université et sur les gens qu'elle rencontre là-bas. Donc forcément elle est noire, forcément il y a des enjeux, des questions sur le campus américain en fait, et ça traite, alors c'est sur le ton quand même de la comédie, donc ça traite de ces enjeux-là. C'est beaucoup plus léger, on va dire, qu'Atlanta, mais quand même ça parle de violence policière, ça parle des athlètes qui sont exploités par les universités quand ils sont étudiants, mais à côté on leur donne pas d'argent, donc et c'est, je trouve, plutôt bien écrit. Bon, niveau acteur, on va dire que les talents varient, mais
C'est bien comme ça.
C'est bien les talents varient.
Je vais utiliser ça, les talents varient.
Mais moi, j'aime bien, en fait. Ça me détend de regarder cette série. Et c'est le traitement léger des questions politiques qui se posent sous l'ère Trump. On y revient.
Si tu recommandes, on valide. On est comme ça dans le next épisode. C'est terminé pour aujourd'hui, les amis. Merci beaucoup, Mélanie Wanga. Merci beaucoup, Ronan Crow. Next épisode, c'est terminé. Rendez-vous mardi prochain, même heure.
Fan Footage, c'est votre nouvelle émission qui parle de cinéma.
Je peux pas dire que j'en attendais vraiment beaucoup de ce film.
Bah écoutez, les gars, moi je crois que le premier mot que j'ai prononcé en sortant de la salle, c'était sublime.
Le lundi à 19h sur Séance Radio.